Bonsoir et bienvenue à l'Université de tous les savoirs. Bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent en direct sur Internet. Ce soir, nous recevons Bruno Chaudret, directeur de recherche au CNRS, membre de l'Académie des sciences, directeur du laboratoire de chimie de coordination du CNRS de Toulouse, pour une conférence intitulée « Nano particules magnétiques ». Cette leçon s'inscrit dans la série des 11 conférences consacrées au thème « Le magnétisme aujourd'hui, du pigeon voyageur à la spintronique » que nous vous proposons avec Yves Michaud, concepteur de l'Université de tous les savoirs, jusqu'au 19 janvier 2009. Les prochaines conférences de l'Université de tous les savoirs auront lieu en juin 2009 autour du thème « Le développement durable, pourquoi, comment ?» en partenariat avec l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un mot sur les différents modes de diffusion de l'Université de tous les savoirs. Sur le programme disponible à l'accueil, vous pourrez retrouver les adresses des sites Internet où les conférences sont diffusées en direct ou en différé. À la radio, sur France Culture, entre 6h et 7h du matin, dans le cadre de l'émission « L'éloge du savoir » pour bien se réveiller en culture. Cette série sera diffusée à partir du mois d'avril 2009. En ce moment, jusqu'à mi-février, vous pouvez écouter le jeudi et le vendredi les conférences sur le génome et un peu plus tard, celles sur les humanités. En termes d'édition, les éditions Odile Jacob ont publié les conférences de l'an 2000 dans 6 grands ouvrages et 20 volumes de poche. Depuis lors, Yves Michaud et son équipe ont choisi de mettre en ligne les textes sur le site web que vous trouvez dans le dépliant. C'est un grand plaisir que de vous présenter ce soir notre conférencier Bruno Chaudret. Il est né le 25 décembre, grand jour, 1953. Son parcours est... Il a été formé comme ingénieur à l'École nationale supérieure de chimie de Paris. Il a fait son doctorat à l'Imperial College of London en 1977, où il a travaillé avec Sir Geoffrey Wilkinson, prix Nobel. En 1979, il a obtenu son doctorat des sciences et il a été élu à l'Académie des sciences en 2005. Directeur de recherche au CNRS, il est depuis 2007 directeur du laboratoire de chimie de coordination UPR 8241 du CNRS à Toulouse, qui est un des grands laboratoires en France du CNRS. Il est également, depuis 2007, président du conseil scientifique de l'Institut français du pétrole et président du comité d'évaluation pour la chimie de l'Agence nationale de la recherche depuis 2008. Bruno Chaudret est un spécialiste de chimie organométallique. Il a été le premier à avoir fixé sur un métal une molécule de dihydrogène sans la casser. C'est un grand résultat. Vous allez voir aujourd'hui un autre aspect de ses activités. Il a mis au point avec ses collaborateurs de Toulouse une méthode originale de synthèse de nanoparticules de métaux ou d'oxydes, ce qui lui a permis de développer leurs applications dans des domaines aussi variés que la catalyse, le magnétisme, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, ou la microélectronique. Il développe de nombreuses collaborations, par exemple avec les réseaux CNano ou les réseaux d'excellence européens comme MagmaNet. Il a reçu de très nombreux prix prestigieux, des distinctions, il m'a autorisé à ne pas les donner toutes, mais en France, en Espagne, en Allemagne, le prix Humboldt-Gay-Lussac en 2006, au Royaume-Uni, avec le prix Sir Geoffrey Wilkinson de la Royal Society of Chemistry en 2008. Il a été professeur invité dans de nombreuses universités, élu à l'Académie des sciences. Mesdames et messieurs, Bruno Chaudret.
Merci Michel, merci pour cette introduction. Et je voudrais remercier tout d'abord l'Université de tous les savoirs d'avoir organisé cette série de conférences et Michel Verdaguer de m'avoir invité à présenter cette conférence sur les nanoparticules magnétiques. Donc, je suis un chimiste et je vais vous parler de nanoparticules magnétiques. Et donc, je vais structurer mon exposé en trois parties. Tout d'abord, une introduction qui va être un peu copieuse. Dans cette introduction, je vais sans doute enfoncer quelques portes ouvertes, mais je vais essayer de, sinon rappeler comme mon collègue hier, Dominique Givors, les fondements du magnétisme, mais au moins ce qu'un chimiste en comprend pour pouvoir créer des objets à partir de cette connaissance. Ensuite, donc je parlerai de magnétisme et nanomagnétisme, d'un sujet imposé, le pigeon voyageur, très légèrement. Et puis, l'essentiel sera sur la synthèse de nanoparticules. Alors, on vous a trompé un petit peu, puisqu'on va parler pas mal de chimie, mais vous verrez, c'est de la chimie pour la physique et il n'y a plus tellement de différence à ce niveau-là. Et à la fin, on regardera les propriétés magnétiques des nanoparticules ainsi que les applications actuelles et les applications envisageables de ces nanoparticules, notamment en micro-nanoélectronique et en médecine. Donc commençons par l'introduction. Première chose, bon, c'est trivial, la taille nanométrique. La taille nanométrique, c'est 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Grosso modo, il y a le même rapport entre la Terre et une meule de Comté qu'entre une meule de Comté et une nanoparticule. Donc, à cette taille-là, on va le voir, les phénomènes se passent à la surface et on va avoir quelques propriétés physiques intéressantes. Nanoscience, tous les efforts récents, disons, de la technologie et de la physique ont été conduits vers la miniaturisation. Donc, il y a beaucoup de mes collègues qui sont intervenus ou qui vont intervenir, qui vont parler de ce phénomène-là. Mais en miniaturisant, on rejoint des tailles qui sont les tailles caractéristiques de la biologie, entre 10 nanomètres et 1 micron. Et on rejoint la chimie qui a fait l'effort inverse de faire croître la taille des objets, de maîtriser leur organisation pour arriver à des objets complexes qui puissent remplir des fonctions, par exemple électroniques. Et les nanosciences se situent quelque part par là. Je ne donnerai pas de définition des nanosciences, ça m'entraînerait à des controverses, donc on va s'arrêter là. Nano-objet, c'est simplement un objet de taille nanométrique, c'est-à-dire c'est n'importe quoi qui fait entre 1 et 100 nanomètres. Donc, dans ces n'importe quoi, j'avais préparé une image, je ne sais pas si je vais la dire, mais si on parlait de senti-objets, des objets centimétriques, il y aurait aussi bien le camembert que le téléphone portable. Ce sont deux objets qui ne sont considérés, qui ne sont caractérisés que par leur ordre de grandeur. Donc, à ces tailles-là, qu'est-ce qu'on peut rencontrer? On peut rencontrer des petites associations de molécules, comme ces micelles, qui résultent du fait que dans l'eau, des molécules qui ont une tête polaire en blanc, là, et puis une queue apolaire, vont s'organiser de telle sorte qu'elles vont faire des petites sphères, et des petites sphères de taille nanométrique. Alors ça paraît être des objets vraiment intéressants et curieux. On les rencontre dans les mayonnaises, dans les détergents, dans les savons, etc., etc. Donc ce sont des objets très courants. L'autre chose sont les polymères et dendrimères. Les polymères sont des macromolécules, des grosses molécules, qui résultent de l'empilement de motifs réguliers sur des longues distances. Une catégorie particulière de ces polymères sont les dendrimères, dans lesquels l'empilement ne se fait pas dans la longueur, mais se fait dans le volume, sous forme d'une arborescence. Et par exemple ici, vous avez un motif là qui est un cycle benzénique qu'on va retrouver ici. Donc on part de 6. Là, on en a 12 dans la première couronne, 24, 48 et on peut continuer. Donc c'est une molécule unique, mais également polymérique. Donc tout ça, c'est des nano-objets. Il y a des particules métalliques. Et les particules métalliques, on se les représente comme des petits bouts de matière, mais en fait, les chimistes sont arrivés maintenant à donner à ces particules des formes, des tailles bien contrôlées, ce qui fait qu'on peut synthétiser, par exemple, ces flèches de platine qui ont des surfaces régulières exposées qu'on peut utiliser en catalyse, ou ces plaquettes de nickel, ces allumettes de cobalt or, bâtonnets de cobalt, et une structure au-dessus, c'est-à-dire des nanoparticules régulières organisées dans ce qu'on appelle un supercristal, c'est-à-dire de la même façon que les atomes sont organisés dans un cristal, les particules s'organisent ici dans un supercristal de réseau cubique à face centrée. Je vais revenir sur tout ça, mais c'est pour donner un panorama de ce qu'on peut voir. Et puis, des nano-objets, on va en rencontrer dans le monde vivant. Alors, dans le monde vivant, on va trouver des virus et on va trouver des nanoparticules magnétiques, comme de la magnétite, dans ces bactéries, et on en a déjà parlé ici, qui vivent très bien avec ça. Et le pigeon ? Le pigeon, lui aussi, est muni de nanoparticules magnétiques. Il a dans son bec des oxydes de fer qu'on voit ici. Ces oxydes de fer se montrent sous la forme d'agrégats de nanoparticules individuelles. Les petites particules ont une taille de 2 nanomètres à peu près, s'assemblent en des petits agrégats d'une centaine de nanomètres qui eux-mêmes s'assemblent en chaînes et en réseaux de taille micronique. Très bien, mais comment ressent-il le champ magnétique ? Donc pour répondre à cette question, bien que chimiste, il faut que je revienne un peu à du magnétisme. Alors hier, ceux qui étaient là ont vu le cours de Dominique Givor, donc ça me simplifie beaucoup la tâche. Mais malgré tout, je voudrais réinsister sur plusieurs phénomènes. Le magnétisme a deux phénomènes principaux qui sont l'échange. L'échange, c'est ce qui va permettre au moment magnétique individuel de deux atomes adjacents de s'aligner. Alors c'est un phénomène de nature quantique, c'est un phénomène qui ressemble à la liaison chimique et qui est dû au fait que deux atomes ont un nombre insuffisant d'électrons et ces électrons vont pouvoir s'aligner. Bon, on pourra en discuter. Donc, certains métaux, parce qu'ils auront le nombre d'électrons qui convient et parce qu'ils auront la distance métal-métal qui convient, vont donner lieu à ces couplages d'échange, et ce sont les métaux ferromagnétiques type fer-cobalt-nickel. Ces moments magnétiques s'alignent, mais ne s'alignent pas n'importe où, ils s'alignent sur l'axe de facilimentation. Qu'est-ce que c'est que l'axe de facilimentation ? C'est un axe cristallographique du système. La matière, les atomes ne sont pas empilés au hasard, ils sont empilés sous forme de cristaux, et c'est le long d'un de ces axes. Ici est représentée une structure cubique, donc il y a trois axes possibles, mais sur un autre type de structure qui serait anisotrope, qui aurait une direction privilégiée, un seul axe de facilimentation serait possible. Ensuite, il y a les couplages dipolaires. Ces couplages dipolaires, c'est ce qui permet de voir les lignes de champ ou s'orienter les boussoles, ce que vous avez vu, je crois, dans la première conférence, pour ceux qui étaient là. Et ces couplages dipolaires sont présents aussi bien à l'état macroscopique qu'à l'état microscopique, et ils vont avoir tendance à minimiser l'énergie du système en se refermant. Donc comment ça marche ? Grosso modo, il y a un pôle nord, un pôle sud, et il y a un alignement des lignes de champ. Si on a l'échange, si on a les couplages dipolaires, pour minimiser l'énergie d'un système, il y a création de domaines magnétiques. Donc, dans ces domaines, dans une partie, tous les spins tous les moments magnétiques sont alignés dans la même direction, et puis les couplages dipolaires ferment l'aimantation, et donc on a une minimisation de l'énergie. Mais quand on va réduire la taille, on va arriver à un moment où il n'y aura plus de domaine. On va être dans un système où les particules seront monodomaines. Dans ces particules, le couplage d'échange fera que tous les moments magnétiques individuels sont alignés, toujours le long de l'axe de facilimentation. Donc, chacune de ces particules va se comporter comme un petit aimant individuel et avec un moment magnétique qui sera la résultante de tous les moments magnétiques individuels des atomes qui seront présents dans la particule. Et là, il y a un phénomène qui est très intéressant. Donc, l'anisotropie magnétique a été également discutée par mes prédécesseurs. Pour un chimiste et avec les mains, l'anisotropie magnétique, c'est le terme qui s'oppose au retournement de l'aimantation. C'est comme un ressort. S'il est raide, on ne peut pas retourner l'aimantation. S'il est mou, l'aimantation est retournée. Et donc, on a un système où le moment magnétique peut fluctuer. Et ce qu'on voit, c'est que cette anisotropie magnétique, premièrement, elle dépend essentiellement de la structure cristalline, puisque pour le fer, elle est de cet ordre-là, 10 puissance 5, 10 puissance 4. À peu près la même chose pour le cobalt quand il a la même structure que le fer, mais elle est 10 fois supérieure pour le cobalt quand il a une structure cristalline anisotrope, hexagonale compacte, avec un axe privilégié de croissance. Et ceci fait que les systèmes qui sont très anisotropes vont conduire à ce que, comme ça sera très difficile de retourner l'aimantation, on aura une taille de particules qui va rester monodomaine, c'est-à-dire pour lequel il n'y aura pas de création de domaine, qui sera grande, 74 nanomètres, alors que quand le spin va pouvoir fluctuer, à l'intérieur des particules se recréeront des domaines magnétiques à des tailles beaucoup plus basses. Donc, on a le monodomaine pour les petites tailles. Ça, c'est censé représenter des cubes de fer. Monodomaine aux petites tailles, multidomaine aux grandes tailles. Donc, on voit bien la partie, là, tous les moments magnétiques alignés. Et entre, il y a un état un peu bizarre où l'aimantation tourne, se cherche. C'est l'état vortex. Et l'état vortex est caractérisé aussi par une composante qui est perpendiculaire au plan d'aimantation. On a presque fini, mais il faut définir quelque chose d'autre qui est le ferromagnétisme et le superparamagnétisme. Quand on a des petites particules, on a donc un axe privilégié, l'axe de facilimentation. Mais cet axe n'est pas orienté, c'est-à-dire que les deux positions sont équiprobables. Et pour passer de l'une à l'autre, il faut retourner tous les moments magnétiques, et ça coûte de l'énergie. Donc, pour passer de l'une à l'autre, il va y avoir ce qu'on appelle une barrière d'énergie, qui sera égale au produit de la fameuse anisotropie qu'on a vue, donc la raideur du ressort, que multiplie le volume de la particule, c'est-à-dire, grosso modo, le nombre total de moments magnétiques présents dans cette particule. Et ceci va conduire à la chose suivante. Si l'énergie du système, l'énergie thermique, est telle, ou si la barrière est basse, cette barrière E est basse, ça peut être que les particules sont petites, ça peut être que l'anisotropie est faible, le système va pouvoir fluctuer, c'est-à-dire que le moment magnétique va passer joyeusement la barrière et on va avoir comme ça un système où il n'y aura pas de démantation qui va rester sur la particule. C'est ce qu'on appelle le comportement superparamagnétique. Dans ce cas-là, si on applique au système un champ qui est très faible, on va voir une aimantation qui va apparaître. Par contre, si le système est bloqué, c'est-à-dire si la barrière est très haute, soit parce que l'anisotropie est très forte, soit parce que la particule est grosse, soit les deux, à ce moment-là, il va falloir mettre un champ important pour pouvoir retourner l'aimantation. Ce champ important, c'est le champ coercitif. Donc, il va falloir faire de la coercition sur le moment magnétique, le forcer à tourner. Et là, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que quand on va retourner à champ nul, on aura deux positions de l'aimantation, avec l'aimantation vers le haut ou vers le bas. Et cette aimantation vers le haut ou vers le bas va être une information, donc va être une possibilité de stocker de l'information magnétique. Alors, si on revient au pigeon, j'avoue que je ne suis pas un spécialiste du pigeon, au moins de ses particules magnétiques, et que c'est sous l'impulsion de mon ami Michel que j'ai dû me pencher sérieusement sur le problème. Le pigeon est vraiment sujet à controverse, et en particulier, ce qui est sujet à controverse, c'est la transmission de l'information magnétique au pigeon. Comment comprend-il le champ magnétique ? Ce qui est moins sujet à controverse, c'est que ces agrégats qu'on a vus dans le bec du pigeon sont des agrégats qui sont super paramagnétiques, c'est-à-dire dans lesquels l'aimantation peut fluctuer. Et en l'absence de champ magnétique, on va avoir toutes les directions possibles de l'aimantation. Si le pigeon est dans un champ est parallèle au champ magnétique, les agrégats vont s'orienter dans cette direction et on va voir apparaître des couplages dipolaires possibles le long de cette chaîne. Donc on va tirer sur le nerf du pigeon. Les mêmes couplages dipolaires plus, moins, quand le pigeon va se trouver dans un champ qui est perpendiculaire au champ magnétique, pas dans un champ, dans une direction qui est perpendiculaire au champ magnétique, vont avoir tendance à écarter les nanoparticules. Et dans ce cas-là, on va avoir donc deux effets contraires sur le pigeon. Je crois que ça, à peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Après, c'est quel nerf ? Certains proposent le nerf olfactif, d'autres disent que ce n'est pas le nerf olfactif. Après aussi, comment le pigeon sent les choses ? Certains pensent qu'il le sent vraiment, qu'il sent de manière olfactive le champ magnétique. Je ne m'avancerai pas, je ne suis pas spécialiste. Donc, ça m'amène à la deuxième partie de mon exposé, qui est la synthèse de nanoparticules, le contrôle de taille, de forme et d'organisation. Comment le chimiste va pouvoir organiser la matière pour faire des nanoparticules. Alors pourquoi s'intéresser aux nanoparticules magnétiques ? Mais premièrement parce qu'il y a des propriétés intéressantes sur le plan physique, c'est-à-dire ces propriétés de superparamagnétisme, il y en a d'autres, il y a l'anisotropie de surface, on peut regarder tout un tas de phénomènes intéressants, il y a des applications. Pour les particules qui sont ferromagnétiques à température ambiante, c'est-à-dire l'état bloqué où il y a une hystérésis, on peut penser les utiliser dans l'enregistrement magnétique. Pour les particules superparamagnétiques, on peut les utiliser comme agent de relaxation, par exemple pour l'imagerie médicale, et ça, c'est déjà utilisé. Et puis, il y a énormément d'autres applications, tels que les utiliser comme des inducteurs pour les téléphones mobiles, c'est une utilisation très importante, le blindage électromagnétique, la spintronique. Pour la spintronique, il y a Albert Fert qui parlera dans 2 jours, donc ça m'évite de dire quoi que ce soit et de dire des bêtises. Et qu'est-ce que le chimiste vient faire là-dedans ? Le chimiste va travailler sur cette fameuse barrière KV. L'anisotropie effective du système a le bon goût d'être additive, c'est-à-dire que ça va être la somme de l'anisotropie propre au matériau, qu'on appelle magnétocristalline, l'anisotropie de forme, qui dépend de la forme de l'objet considéré, et l'anisotropie de surface, et puis d'autres. Donc, en choisissant le matériau, fer, cobalt, nickel, les alliages dits « doux », comme le fer nickel ou dur, comme le fer platine, des oxydes. On peut jouer sur la taille. La taille va jouer sur le volume et l'anisotropie de surface. Donc, si on a des toutes petites particules, elles seront super paramagnétiques avec une forte anisotropie de surface, alors que les grosses seront ferromagnétiques. La forme, sphère, cube, bâtonnet, fil, etc. et l'organisation pour, par exemple, voir les électrons sauter de particule à particule. Et ça dépend du champ magnétique appliqué, donc retrouver les magnétorésistances. Les synthèses, je n'ai pas voulu faire un catalogue de toutes les méthodes de synthèse possibles de nanoparticules. Il y a beaucoup de méthodes possibles, bien évidemment. Donc pour les oxydes, on hydrolyse des sels et on les précipite. On peut réduire des sels métalliques par des réducteurs tels que le borohydrosodium, hydrazine, etc. J'ai rajouté le phosphore puisque c'est la méthode qu'a utilisée Michael Faraday en 1857 pour faire des nanoparticules d'or. Et donc ça peut marcher, c'est un peu compliqué. Ou le plus simple, c'est l'hydrogène. Donc moi, je ne vais vous parler que de chimie organométallique et plus spécifiquement encore, simplement de synthèse par voie organométallique de nanoparticules de fer, cobalt ou alliage. Et déjà là, on va voir qu'il y a une diversité. La chimie organométallique, qu'est-ce que c'est ? Bon, simplement, c'est la chimie de la liaison métal-carbone. Le précurseur, c'est Victor Grignard, que tout le monde connaît sans doute par le réactif de Grignard ou par les nombreux amphi-Grignard qu'il y a dans les universités, qui a fait les organomagnésiens, donc une liaison entre le magnésium et le groupement méthyl. Jeffrey Wilkinson, qui est le précurseur de la chimie organométallique modèle, et par exemple, qui a trouvé la structure du ferrocène. Ce ferrocène a un fer qui est encapsulé entre deux tranches de carbone à cinq chaînons de carbone. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un complexe sandwich. Et puis Yves Chauvin, qui est l'auteur du mécanisme de la métathèse, qui est une réaction très importante, dans laquelle on va pouvoir battre les cartes des liaisons carbonées en utilisant un complexe métallique qui a deux liaisons avec le carbone. Alors, comment se passe la synthèse organométallique ? On prend un précurseur, sous hydrogène, on va hydrogéner les molécules carbonées qui sont autour, c'est-à-dire que là, on a une double liaison carbone-carbone, on va en faire une simple. Ça, le produit résultant n'aura plus d'affinité pour l'atome et on aura des atomes nus qui vont se condenser. Cette étape s'appelle la nucléation et ça va donner lieu à des toutes petites particules, plus ou moins monodisperses en taille, de formes plus ou moins régulières. Et dans une deuxième étape, en utilisant la chimie, on va pouvoir faire croître, avoir un phénomène de croissance pour obtenir soit des sphères, soit des bâtonnets, soit autre chose. Donc notre problème, c'est comment on maîtrise tout ça. Un petit point très rapide, la croissance ne se fait pas n'importe comment, elle se fait couche à couche, et ça c'est censé représenter des particules de platine, et on voit que très rapidement, on récupère les plans, l'organisation du métal massif. Donc je passe assez rapidement là-dessus. Donc revenons à notre complexe organométallique de cobalt. Un complexe, une association d'un métal et de carbone. Sous hydrogène, on lui enlève ses molécules organiques. On a du cobalt qui se condense. Si on ne met rien, il va se condenser sur lui-même et on va avoir du cobalt qui va tomber. Donc on lui met un polymère qui n'interagit pas ou peu avec le cobalt, mais qui va permettre aux petites particules d'être séparées pour ne pas se rencontrer et coalescer. Et donc on a des petites particules de cobalt. Je ne vais pas commenter cette diapositive, mais ces petites particules vont avoir des propriétés qui vont être exaltées. On a des propriétés d'anisotropie qui sont plus fortes qu'elles ne sont à l'état massif, d'un facteur à peu près un peu moins de 10, et aussi une aimantation à saturation qui est supérieure à ce qu'elle est dans le métal massif. Alors pourquoi on fait ça ? On fait ça pour qualifier nos particules. C'est une méthode de vérifier que nos particules ont les bonnes propriétés quand on les compare à des agrégats qui sont préparés, à des particules qui sont préparées dans l'ultravide. Ça, ce sont des particules qui sont triées en masse, c'est-à-dire atome par atome, qui ont un nombre d'atomes bien défini. Et nos particules qui sont faites par une méthode statistique de chimie ont des aimantations qui ressemblent à ce que c'est dans l'ultravide. Donc, cette première étape est là pour qualifier les particules. Cette méthode de synthèse nous permet d'avoir des éléments qui vont pouvoir être utilisés. Donc, pertinent. Comment les faire croître ? Alors, on peut utiliser un moule. Un moule rigide, c'est-à-dire faire comme de la métallurgie classique. On a ces petites particules qui se forment. Dans l'état où elles sont pseudo-liquides. Et on peut les mettre dans un moule, une silice mésoporeuse, c'est-à-dire une sorte de verre avec dedans des canaux bien réguliers. Donc on met les particules là-dedans et on voit qu'on forme effectivement des sortes de bâtonnets à peu près réguliers avec une taille régulière. Mais il y a deux problèmes. Premièrement, ce n'est pas vraiment régulier. Deuxièmement, si on veut utiliser ces particules pour des propriétés magnétiques, les mettre dans un circuit, il faut détruire le moule. Alors l'autre idée, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler des ligands qui sont des molécules organiques qui vont venir se lier à la surface des particules. Ces ligands, il y en a de toutes sortes, il y a beaucoup de fonctions chimiques, mais on va les classer simplement en deux sortes, les forts et les faibles. Les forts sont ceux qui vont se lier de manière irréversible à la surface des particules, et les faibles, ceux qui vont se lier de manière réversible à la surface des particules. Donc, quand une particule sera stabilisée par un ligand fort, elle sera stable pour toujours. Pour longtemps, on en a depuis des années. Quand elle sera liée à un ligand faible, on va voir que ce ligand va l'aider à grossir. Et par exemple ici, on voit qu'avec un ligand qui est une amine avec une longue chaîne alkyle, on a coalescence des particules initiales, ici et ici, accrochage des particules l'une au bout de l'autre, mais pas n'importe comment, et ça donne des fils, et finalement ça donne cette espèce de planouille de fils de platine. Donc, quel est le rôle du ligand là-dedans ? Le ligand ou les systèmes de ligands peuvent être utilisés pour faire des moules qui sont rigides. C'est-à-dire, en utilisant un acide à longue chaîne, c'est des acides qu'on trouve par exemple dans l'huile d'olive, ce n'est pas des produits chimiques très élaborés, ou des amines avec ces longues chaînes alkyles, on va pouvoir associer ces deux fonctions pour faire des moules qui vont être rigides. Donc on va avoir une interaction électrostatique qui va rigidifier l'ensemble et on va faire ces moules. Donc je vais vous donner un exemple de ça. Comment faire croître des nanoparticules de fer ? Notre objectif, c'était de synthétiser des particules de fer pour une application, l'hyperthermie, que je définirai plus tard, et notre cible, des sphères de 10,3 nanomètres de diamètre. Donc la première question, c'est est-ce qu'on a un précurseur ? On a vu que pour le cobalt, on avait un précurseur qui nous donnait des bonnes propriétés magnétiques. Pour le fer, il nous a fallu chercher pendant de nombreuses années avant de trouver cette espèce organométallique que l'on peut décomposer sous hydrogène, qui se disperse dans un polymère et qui donne un excès d'aimantation pour des particules de taille de l'ordre de 2 nanomètres. Maintenant, si on utilise le moule, c'est-à-dire le mélange acide et amine, on voit que là, on a quelque chose qui est totalement différent. Ce ne sont plus des toutes petites particules, ce sont des nanocubes réguliers, organisés dans des supercubes, et à l'intérieur de ces supercubes, tous les petits cubes individuels sont alignés l'un au-dessus de l'autre. L'avantage aussi de cette chimie, c'est que on n'a plus besoin de casser le moule, on peut remettre en solution et, par exemple, faire une monocouche sur une surface de petits cubes de fer. Alors, comment se passe la croissance? Est-ce qu'on peut expliquer ou est-ce que c'est le fait du hasard? Ce n'est pas totalement le fait du hasard. On peut expliquer la croissance de la manière suivante. Dès le départ de la réaction, avant toute décomposition, l'association de l'amine et de l'acide crée ce moule dont je vous ai parlé et qui est visible sur ce cliché et qui est une organisation de la matière molle en phase lamellaire. Et c'est à l'intérieur de ce moule que vont se créer les particules. Et à la fin, on retrouve plus ou moins le moule avec les particules formées. Donc au début, on a les particules qui poussent dans ces trucs-là, et on voit que les particules ne sont pas régulières, parce que la croissance de ces nanoparticules est thermodynamique, et donc, en même temps qu'il y a un phénomène de croissance, il y a un phénomène de corrosion, ce qui explique qu'à la fin, toutes les particules auront la même taille et la même forme. Voilà, à la fin, les cubes qui sont dans des grandes superstructures. Mais on n'est pas forcé de faire un moule. On peut s'abstraire du moule et travailler, faire en sorte qu'il n'y ait pas de structure rigide qui soit créée par l'association de l'acide et de l'amine. Si c'est ça, la méthode la plus simple de croissance, c'est couche à couche, et donc, à la fin, on va obtenir des sphères. Si je résume, on a notre précurseur, on a des associations, des moules. À l'intérieur, il va y avoir un arrangement de la matière, on obtient ces cubes organisés. Si on le fait en dehors, chaque particule individuelle est stabilisée par les molécules, les ligands, et on obtient ces particules sphériques. Et maintenant, on a un catalogue de sphères et de cubes de à peu près toutes les tailles. Bon, ça c'était pour du fer. Le fer a une structure qui est cubique centrée. Maintenant, si on passe au cobalt, qui est hexagonal compact, c'est-à-dire cubique centré, ça fait des cubes et ça n'a pas d'axe privilégié de croissance. Hexagonal compact, il y a un axe privilégié de croissance. Je ne vais pas tout raconter en détail. On fait la même chose. On fait des petites particules. On les fait cuire sous hydrogène 48 heures. Et maintenant, ça pousse, mais ça pousse dans une direction et on obtient des bâtonnets qui sont monocristallins et monodomaines magnétiques. Comment se fait la croissance? Là, on voit très bien, par exemple, que les bâtonnets, quand ils sont formés, rentrent dans le moule et servent de moule pour la fabrication d'autres bâtonnets. Donc c'est une structure un peu itérative. Et d'autre part, il y a des bâtonnets très longs qui vont être corrodés à la fin pour que tous les bâtonnets aient à peu près la même longueur. Alors on peut s'amuser à changer le moule encore une fois en mettant plus, par exemple, de ligands forts, ce qui va faire qu'ils vont se coordonner le long de l'axe de croissance, et on va passer de bâtonnets à des fils. Alors, je ne vais pas détailler toutes les formes de la Terre, mais ça, c'est de l'holographie magnétique, c'est-à-dire si on veut la visualisation dans un microscope électronique du champ magnétique de la particule. Ça, c'est une image de phase, et le fait que ça ne change pas de couleur veut dire que ça reste aimanté de la même façon, donc que les fils sont monodomaines. Ils sont monodomaines, mais une propriété qu'on peut pointer là de la matière à l'échelle nanométrique, c'est que la température de fusion du cobalt massif, c'est 1495 degrés Celsius, mais qu'ici, quand on est à l'échelle nanométrique, dès 300-350 degrés, on voit que les bâtonnets de cobalt sont fondus. Et ça, c'est une propriété qui est générale, et pour les toutes petites particules, on a un comportement qui est pseudo-liquide, même à des températures proches de la température ambiante. Et puis, on peut jouer, le chimiste est joueur, donc on a on peut jouer sur les étapes de nucléation et croissance. Et en jouant sur les étapes de nucléation et croissance, on peut s'amuser à faire regrossir, par exemple, ou repartir de la croissance dans des directions privilégiées et faire des oursins, des réseaux neuronaux, des petites bestioles, etc. Voilà. Le dernier point, là, c'est on sait faire des objets, on sait leur donner une taille et une forme. Maintenant, qu'en est-il si l'on veut connecter ces objets, si l'on veut faire des objets qui soient complexes? Par exemple, il pourrait être intéressant de mettre sur nos bâtonnets de cobalt des petites particules d'or pour pouvoir les déposer sur une surface et les lier et organiser ces bâtonnets pour l'enregistrement magnétique. À l'échelle nanométrique, on ne peut pas faire de soudure, on ne peut pas mettre un point de colle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une croissance contrôlée. Je crois que je vais passer sur cette diapo. Et on va faire de la croissance contrôlée en choisissant judicieusement un précurseur qui va pouvoir se décomposer dans des conditions douces. Mais on aura ce qu'on appelle le phénomène de nucléation hétérogène, c'est-à-dire qu'il est plus facile pour une particule de croître sur un support que directement en solution. Alors, pour contrôler ça, on va rajouter nos fameux ligands. On a pu démontrer par ailleurs que les ligands se mettent le long de l'axe de croissance et donc la nucléation va intervenir uniquement au bout des bâtonnets de cobalt. Et comme ça, on va pouvoir faire uniquement des particules d'or qui se mettent au bout des bâtonnets. Même chose si on prend des bâtonnets qui sont luminescents, par exemple du sélénure de cadmium. Ces bâtonnets luminescents qui peuvent être utilisés, par exemple, dans des cellules photovoltaïques, si on veut les aligner, on peut mettre une petite boule de cobalt au bout et, grâce au couplage dipolaire, les aligner. Le dernier point sur la synthèse, je m'aperçois que je suis un peu long. Le dernier point sur la synthèse, c'est la synthèse d'alliage. On peut faire des alliages de la même façon, par exemple des alliages de fer-cobalt, qui sont des alliages doux, c'est-à-dire avec une faible anisotropie. Et en utilisant le même moule, on obtient ce qu'on voit ici, c'est-à-dire des cristaux millimétriques avec un excellent rendement qui contiennent du fer cobalt. Mais le fer cobalt à l'intérieur n'est pas n'importe comment. Quand on casse un de ces cristaux, on voit que ces cristaux sont constitués de nanoparticules parfaitement monodisperses et organisées dans des super réseaux. Donc, un cristal avec un arrangement cubique à face centrée. Alors, comment cela se forme-t-il? Cela peut se former parce que on a, à cette température-là, une inhomogénéité dans les particules sphériques de fer cobalt. C'est l'inhomogénéité qui explique qu'on reste sous forme de sphère et les méthodes de synthèse, en particulier le fait qu'on utilise de l'hydrogène qui vient corroder en permanence la surface, fait qu'on arrive à faire des particules qui sont totalement monodisperses. L'avantage de ces supercristaux, c'est qu'ils contiennent aussi encore un petit peu de molécules organiques dedans, donc on peut les redissoudre et par exemple faire un dépôt à la tournette ou par jet d'encre, pour les utiliser pour leurs propriétés physiques. Alors j'en arrive à la dernière partie de mon exposé sur les propriétés magnétiques et les applications de ces nanoparticules. Alors il y a beaucoup d'intérêt en microélectronique, nanoélectronique, enregistrement magnétique. Vous entendrez parler de capteurs de position bientôt, d'enregistrement magnétique avec Claude Chappert, de spintronic avec Albert Fert, donc je peux passer cette diapo. Donc, les propriétés magnétiques, maintenant qu'on a des particules individuelles avec lesquelles on peut jouer, on peut contrôler leur taille. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure d'un état vortex, c'est-à-dire d'un état qui se trouve entre le monodomaine et le multidomaine. Alors, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit un nanocube de fer vu de dessus. Il fait environ 30 nanomètres, donc bien entre les 20 et 40 nanomètres qu'ont prédit nos amis physiciens. Et ce qu'on voit là, c'est une image de phase. Cette image de phase montre qu'il y a une couleur qui reste la même autour du nanocube, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de phase ou il n'y a pas de couleur uniforme. Ça, c'est la signature de l'état vortex. Et on voit très bien ici, cette image-là, les fausses couleurs donnent la direction des vecteurs individuels d'aimantation. On voit bien qu'on a une aimantation qui tourne sur le nanocube de fer. On peut le simuler. Ça, c'est pas moi qui l'ai fait, ce sont les physiciens du CMS et du LPCNO à Toulouse. Et on voit qu'on a alignement des petits dipôles individuels. Donc on peut imager cet état vortex, mais aussi on peut jouer. On peut prendre deux cubes, et si on prend deux cubes, là on voit qu'on a au milieu un changement très net d'aimantation, mais que la direction reste la même. Et ça, c'est la signature d'un couplage ferromagnétique, et on voit très bien là les couplages dipolaires qui peut exister entre les deux cubes. Et puis, si on prend quatre cubes, on voit qu'on retrouve une image qui ressemble à l'image d'un cube unique. Il y a refermement de l'aimantation, des lignes de champ, et les couplages dipolaires entraînent un état qui est refermé. Donc, on peut jouer comme ça, on peut prendre 5 cubes, 6 cubes, etc. On peut jouer comme ça pour regarder exactement à l'échelle microscopique comment sont les lignes de champ, et ça ressemble furieusement aux lignes de champ qu'on peut voir à l'état macroscopique. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que les bâtonnets de cobalt ont des propriétés magnétiques intéressantes. Ils sont ferromagnétiques à température ambiante. Ferromagnétiques, je rappelle, on peut inscrire de l'information magnétique. Si on peut les aligner, alors on a essayé de les aligner par des méthodes chimiques. Ça, ce sont les bâtonnets vus sur le dessus, et on les voit dans des réseaux hexagonaux. Si on peut les aligner et si on peut leur assigner une place précise, on peut théoriquement faire de ces bâtonnets un disque dur avec des capacités de stockage phénoménales, 7,5 terabits par pouce carré. Mais pour les aligner, c'est pas commode. Comment marche l'enregistrement magnétique ? Il faut avoir des bâtonnets de cobalt. Ça, c'est censé représenter un bâtonnet de cobalt placé à des endroits bien réguliers. On met de l'aimantation dessus et on va avoir une lecture possible de l'aimantation et donc pouvoir stocker de l'information. J'ai pris ces colonnes de Chichen Itza pour montrer qu'il faut, pour qu'on puisse inscrire et lire, avoir des endroits tout à fait réguliers où l'information magnétique va être stockée. Et puis on peut faire des choses qui sont plus simples, comme par exemple simplement noyer une spirale de cuivre dans un matériau magnétique doux, le fameux fer cobalt, et qui est isolant, et on va obtenir des propriétés d'inductance qui vont, ça c'est une première manip où on voit qu'on double simplement la propriété d'inductance en mettant du fer cobalt sur le dessus, mais on peut espérer augmenter fortement l'inductance simplement en noyant cette spirale dans ce matériau, et donc diminuer les dimensions et diminuer la consommation des appareils électroniques. Enfin, on peut mesurer des propriétés de transport, comme par exemple, on peut regarder le blocage de Coulomb, c'est-à-dire sur les petites particules. Si on met un électron dans une particule, il va falloir mettre un excès d'énergie pour faire passer le deuxième électron. Donc on va avoir des courbes I en fonction du potentiel appliqué qui ne vont plus être linéaires, mais qui vont donner lieu à ce fameux blocage de Coulomb. Je passe sur la magnétorésistance, puisque Albert Fert sera là dans 2 jours, comme on l'a dit. Par contre, je voudrais simplement finir. Il me reste 2 diapos, je crois que je suis presque dans les temps. Je voudrais finir simplement en parlant des premières applications des nanoparticules magnétiques en nanomédecine. En fait, ces nanoparticules ont 3 propriétés qui peuvent être très intéressantes. La première, elles ont un moment magnétique fort et donc vont perturber les moments magnétiques des atomes qui vont être au voisinage de cette particule. Donc, on va pouvoir les utiliser pour modifier le temps de relaxation en RMN ou en imagerie par résonance magnétique des molécules qui seront dans leur voisinage. Donc ça va être des agents de contraste pour l'imagerie médicale. La deuxième chose, c'est que ces particules sont magnétiques et que si on met un aimant, on va pouvoir les attirer dans des endroits où, par exemple, il y aura une tumeur. Donc ça, ce sont des choses qui sont explorées par Florence Gazot et Claire Willem à Paris 7, et je les remercie pour leur transparent. Et ce qu'on voit, c'est qu'en combinant l'attraction magnétique avec une vectorisation biologique, on peut avoir des effets qui sont intéressants en termes de sélectivité de reconnaissance des tumeurs. La troisième chose, où je vais en parler un petit peu plus, parce qu'on travaille là-dessus, c'est le retournement du moment magnétique des particules, on a vu, se fait, nécessite de passer une barrière. Si on force ce retournement, on va récupérer la chaleur de cette barrière et donc, par retournement magnétique, on peut chauffer localement et ça, c'est aussi utilisé. La première chose quand même à voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on va mettre des nanoparticules magnétiques au voisinage des cellules. Ces nanoparticules magnétiques de Florence Gazot et Claire Willem sont des nanoparticules d'oxyde de fer contenant en surface des ions citrates, donc des choses qui sont a priori bénignes, et elles sont reconnues, alors c'est passé tout seul, voilà, elles sont reconnues par la surface, peuvent pénétrer et se concentrent à l'intérieur de la cellule. Ce qui est remarquable, c'est que c'est sans effet sur la vie propre de la cellule qui peut continuer à vivre sa vie tranquillement. Et je reparle du pigeon. Notre ami le pigeon vit avec de manière très heureuse. Donc, on peut utiliser aussi donc le retournement de l'aimantation pour faire décrire. Non, si je montre avec mon doigt là, ça va pas aller. Pour faire décrire ce cycle d'hystérésis au système et récupérer la chaleur du système. Et donc à Berlin. Il y a un hôpital à la Charité, le professeur Jordan, qui utilise cette méthode pour injecter directement des particules magnétiques dans des tumeurs et faire un chauffage magnétique directement. C'est une méthode qui marche, mais qui nécessite quand même, bon, qui est assez brutale et donc qui a beaucoup de place pour de l'amélioration, disons. Donc, je conclurai en disant que dans ce domaine, il y a des espoirs d'aller vers des thérapies multimodales en utilisant la nanoparticule à la fois comme agent de contraste, donc de reconnaissance, et comme agent thérapeutique. Et que les nanoparticules, pour le chimiste, c'est avant tout un problème de synthèse intéressant. Comment on contrôle l'ordre à des distances ou comment on arrive à empiler des atomes de manière très régulière, des milliers, dans certains cas, d'atomes de manière parfaitement régulière pour avoir des objets de taille et de forme contrôlées. C'est un problème intéressant et c'est aussi un test pour savoir si, comme je vous l'ai montré, on est capable d'avoir des objets fabriqués dans nos milieux chimiques un peu sales qui ressemblent aux objets très propres des physiciens dans l'ultravide. Donc pour ça, il faut imaginer des moules dans lesquels on va mettre la matière. On va jouer sur tout ce qu'on a vu, les barrières, les ligands, etc., etc. On va pouvoir avoir accès directement à des structures complexes, comme par exemple faire croître soit du cobalt sur du sélénure de cadmium, soit de l'or sur du cobalt. Et puis on peut penser que ces systèmes vont avoir de plus en plus d'intérêt en micro et en nanoélectronique, en biologie in vitro, en particulier séparation magnétique de protéines, et en nanomédecine. Très vite, je voudrais remercier quand même quelques personnes, en particulier en rouge Marc Crespo, qui est le physicien avec qui je collabore depuis que j'ai commencé à travailler sur les nanoparticules magnétiques. Et en fait, c'est une aventure à deux qu'on a menée. Et puis les autres physiciens, Julien Carré, Étienne Snook, Pierre Lecante, etc., du groupe sur le fer, Sébastien Lachaise avec Frédéric Dumès, Lise-Marie Lacroix, et le groupe magnétique Catherine Amien, Caterina Sulantica et les autres. Et je voudrais aussi remercier notamment le CNRS. Je suis un chimiste organométallicien, pas un physicien, et je pense qu'il n'y a qu'au CNRS où on peut faire un peu ce qu'on veut. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on m'a dit que ce n'était pas vraiment très intéressant comme sujet, les nanoparticules, mais le CNRS m'a laissé faire ça et je pense que bon, ça a un certain intérêt maintenant. Donc merci à vous pour votre attention.
Merci Bruno Chaudret de cette conférence sur les nanoparticules, l'infiniment petit, l'infiniment complexe. Alors, si vous le souhaitez, nous pouvons procéder au jeu quotidien des questions et des réponses. Vous levez la main. Oui, là-bas. Yangling, à droite, voilà, à gauche, voilà.
Ça marche ? Oui. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste des synthèses des nanoparticules, donc je vais vous poser une question sans doute assez naïve. Et vous avez montré tout à l'heure des jolies nanoparticules des métaux, des fers, ou des alliages cobalt et fer. Et je voudrais savoir, est-ce qu'avec cette méthode, la méthode douce de synthèse, est-ce que vous l'avez déjà utilisée à d'autres types de nanoparticules, par exemple les oxydes?
Oui, oui, oui. On fait aussi. Bon, il fallait faire un choix, donc je n'ai pas parlé des oxydes. Mais on fait aussi des oxydes de fer ou des oxydes de zinc de taille et forme contrôlées. On fait aussi des supercristaux d'oxyde. On fait la même chose, c'est-à-dire on choisit un précurseur organométallique qui, là, va se décomposer très facilement à température ambiante avec de la vapeur d'eau. Et donc, dans ces conditions-là, avec le même système de ligands, ou à peu près, enfin les mêmes types de ligands et de moules et de jeux, on arrive à faire des bâtonnets, des sphères, des supercristaux et des choses comme ça.
Bien, merci. Une autre question?
Dans le cas des oxydes, votre matière, enfin, la matière de départ, c'est différent?
La matière de départ n'est pas très différente, non? Par exemple, on prend le même précurseur de fer pour faire de l'oxyde de fer ou pour faire du fer métallique. Mais dans un cas, on le décompose par l'eau pour avoir des oxydes. Et dans l'autre cas, on le décompose par l'hydrogène pour avoir du fer métallique.
D'accord. Et je voudrais savoir, quand est-ce que vous introduisez les atomes oxygène sur les... C'est par hydrolyse au cours de la
C'est par l'hydrolyse, oui.
Oui, oui, d'accord. Merci.
Bien, merci. Alors, une autre question là au centre.
Oui, bonjour. Vous êtes dans un laboratoire de chimie de coordination. C'est quoi la chimie de coordination?
Ah, voilà une bonne question. La chimie de coordination, ça a été, c'est un nom qui date du 19e siècle, mais je me suis opposé à ce qu'on change le nom du laboratoire. La chimie de coordination, c'est la chose suivante. Une liaison chimique, c'est le partage des électrons entre deux atomes. La liaison entre l'hydrogène, il y a un électron sur un hydrogène, un autre électron sur le deuxième hydrogène, et la molécule H2, c'est les deux atomes partagent les deux électrons. Ça, c'est la vision classique de la chimie. Au 19e siècle, on s'est aperçu qu'il y avait une autre, d'ailleurs le spécialiste c'est Michel Verdaguer, mais bon, ça fait rien, mais il y avait un autre type de chimie où le ligand, c'est toujours un ligand, la molécule qui vient se lier, amène tout. Par exemple, l'ammoniac vient sur un sel métallique, un sel de cobalt ou de fer, et amène ces deux électrons. Et la liaison qui est créée entre le cobalt et l'azote à partir des deux électrons apportés par l'azote. Et ça, c'est ce qu'on appelle une liaison de coordination, et on dit que l'ammoniac vient se coordonner sur le centre métallique. Donc c'est un terme qui est maintenant un peu désuet, mais auquel je suis très attaché.
Voilà. Oui. Voilà donc à droite.
Bonsoir. Ma question, c'est au sujet du comportement de la nanoparticule dans la cellule. Vous dites que quand elle arrive au voisinage de la cellule, elle pénètre dans la cellule, se concentre dans la cellule, et qu'elle continue à vivre sa vie tranquillement. Est-ce qu'il n'y a pas du fait que les nanoparticules que vous avez citées sont, par exemple, faites avec du cobalt, vous avez parlé du cadmium, qui sont des métaux dont on connaît la toxicité cellulaire? Comment est-ce que ça peut faire? Est-ce que ça interfère aussi? Alors ça, c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une interaction avec les ions calcium dans la cellule?
Alors, première question. Les images que j'ai montrées, j'étais un peu vite à la fin parce que j'étais trop long, mais les images que j'ai montrées sont des images de Florence Gazo et Claire Willem, et ce sont des particules d'oxyde de fer couverts par des ligands qui sont des citrates. C'est-à-dire, ce sont des particules qui sont biocompatibles. Vous avez tout à fait raison de dire que si on met du sélénure de cadmium dans la cellule ou du cobalt, il va se passer autre chose, vraisemblablement. Donc, les nanoparticules qui peuvent être employées pour des applications en biologie, ce ne sont pas les nanoparticules de cobalt ou de sélénure de cadmium. Donc, la deuxième question... L'interaction avec le calcium, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si elles le savent. Je ne peux pas répondre à cette question. Normalement, je ne vois pas pourquoi il y aurait d'interaction, mais il est possible que si les nanoparticules sont chargées négativement, du calcium se fixe à la surface. Ça, c'est tout à fait possible. Pardon, je sais pas. Oui, c'est pour ça que s'il y a une charge négative en surface des particules, le calcium peut se fixer dessus. Mais ça, je ne sais pas si elles ont regardé ça.
Bien, merci. Une question ici à gauche.
Oui, pour revenir au pigeon, a-t-on une idée de la manière dont il synthétise son capteur magnétique?
Alors moi, non. Et d'après ce que j'ai pu lire, je ne suis pas sûr d'être le seul dans ce cas-là. Mais en fait, il y a un pool de fer et il suffit de changer un tout petit peu le pH. Enfin, dans le corps, on a du fer, beaucoup de fer. Il suffit de changer un tout petit peu le pH localement pour que ce fer précipite, donc sous forme d'oxyde. Donc on peut penser que localement, il doit y avoir quelque chose, un agent basique qui permet à l'oxyde de fer de précipiter. C'est ma supputation.
Bien, d'autres questions ? Oui, une question ici, à droite. Droit.
Une toute petite question. J'ai ici un papier qui parle d'anisotropie magnétique géante et il est question de champs obtenus de l'ordre de 10 puissance 3 de 1000 Tesla. Comment est-ce possible? Évidemment, on ne peut pas mesurer ça. C'est un calcul. D'où provient ce genre d'affirmation?
Est-ce que vous pouvez répéter la question?
C'est un papier de Antonio Hernando de Madrid. Et le titre, c'est, ça a attiré notre attention, je dois le lire en anglais si vous permettez, Giant Magnetic Anisotropy at the Nanoscale, Overcoming the Superparamagnetic Limit. Et donc il y a un petit résumé au début du papier et qui se termine par cette affirmation. Le moment orbital induit donne naissance à des champs effective field, des champs efficaces, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de l'ordre de 10 puissance 3 Tesla, qui sont responsables donc d'une anisotropie géante. Ça me paraît, c'est des chiffres incroyables.
C'est sur quel type de matériaux ?
De l'or. De l'or, des nanoparticules d'or qui sont couvertes de thiol.
Oui. Alors, c'est, je connais ce papier, oui. Donc, c'est peut-être vrai. Il y a quand même une controverse. Il y a quand même une controverse sur le fait, sur l'origine du magnétisme dans l'or thiol. Il est possible qu'en fait, il y ait, si je parle sous le contrôle de Michel, il est possible qu'il y ait en fait de l'or paramagnétique qui soit en surface et que les effets magnétiques qu'on voit soient dus à des choses qui viennent de là. Donc, disons que ça ne fait pas partie des connaissances largement admises par la communauté. Mais bon, je ne suis pas physicien.
Et nous avons vu dans les conférences précédentes que certaines des connaissances non admises le deviennent et deviennent effectivement ensuite un axe de développement. Ça, c'est un point effectivement qui est controversé aujourd'hui. Et puis, il y aura d'autres expériences. Vous avez vu la modestie des réponses des conférenciers. Quand ils ne savent pas, ils ne savent pas. Et en même temps, ils font avancer leur domaine. Donc, c'est un point à approfondir encore, comme le bec du pigeon. Oui, une question là-bas à droite et en haut. Et on va... Oui.
Oui, bonsoir. Moi, j'ai un petit peu de mal à l'échelle où on a parlé ce soir à visualiser les moules. Donc, j'avais besoin de savoir si la forme de vos moules, en fait, était liée à la structure microscopique des ligands ou des produits que vous utilisez, en fait.
Les produits qu'on utilise sont des produits simplement... c'est le même principe que la micelle, c'est-à-dire il y a une tête polaire et puis une queue apolaire, donc grosso modo de l'huile. Ce qui est intéressant dans ces produits, c'est que si on mélange des acides et des bases, ils vont s'associer. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en même temps, nos précurseurs vont réagir avec ces ligands et vont changer de structure pour s'intercaler dans le moule. Et en fait, mais pour être plus précis, c'est l'intercalation des précurseurs dans le moule, c'est-à-dire le fait que, par exemple, on va employer quelques gros mots, mais des carboxylates de fer avec des longues chaînes qui vont se mettre à l'intérieur de la phase lamellaire et qui vont se mettre de manière parallèle. Et donc, quand on va décomposer, on sera prêt à faire un fil dans ce cas-là. Et puis, en changeant les concentrations respectives d'amines et d'acides, eh bien, on va changer la forme du moule.
Merci. Une question là-haut.
Bonsoir. Alors, je voulais revenir sur le stockage de l'information sur les bâtonnets de cobalt. Et donc, ce sont des matériaux ferromagnétiques, comme vous l'avez expliqué. Et donc, il y a une nécessité d'un champ important pour retourner l'orientation du spin. Et je me demandais si ça ne perturbait pas, ce champ important, l'orientation des bâtonnets qui étaient avoisinants. Et ma question était, est-ce que lors de vos travaux, vous avez parlé notamment de synthèse complexe, est-ce que vous aviez réussi à les synthétiser dans des couches, dans des matériaux isolants, enfin pour les isoler les uns des autres? Merci.
Alors, première question, c'est le retournement d'un moment magnétique, est-ce que ça va perturber, par les couplages dipolaires, est-ce que ça va perturber le voisin? On n'a pas pu le faire expérimentalement, mais les calculs de mes amis physiciens, si je les crois, et je les crois bien sûr, parce que c'est enregistré, donc les calculs justes de mes amis physiciens montrent qu'on peut retourner un moment magnétique sans retourner le moment magnétique des autres. Après, ils sont isolés encore, parce qu'on les voit, ce qu'on voit simplement, c'est le bâtonnet de cobalt, mais entre deux bâtonnets, il y a une couche. C'est de graisse, hein, puisque c'est de l'huile d'olive, grosso modo, de l'acide oléique ou des choses comme ça. Il y a une couche qui les isole électriquement. Donc, effectivement, ils ne sont pas très loin l'un de l'autre. Ils sont à un nanomètre à peu près. Mais on voit, par exemple, que dans les particules de fer cobalt, il faut absolument, si on veut les utiliser comme inductance, que le milieu soit non conducteur, et ce milieu est non conducteur. Les particules sont isolées électriquement les unes des autres.
Merci. Je pense que nous allons interrompre là le jeu des questions et des réponses. Et si vous me permettez...